conclu à un non-rapport entre les deux. Et c'est maintenant qu'on est en mesure de répondre. Voir et parler constituent deux lignes fondamentales de différenciation. C'est en sens qu'ils sont en non-rapport. Voir et parler divergent. Pourquoi, au sein de leur non-rapport, sont-ils quand même en rapport? Comment expliquer qu'un rapport surgisse du non-rapport? Au point qu'une bataille entre les deux soit possible. Voyez, la réponse, c'est que la différenciation, la divergence des deux formes, est en fait l'actualisation du même élément informel des rapports de force ou de pouvoir. C'est justement parce que les rapports de force ou de pouvoir sont informels qu'ils peuvent s'actualiser dans deux formes divergentes qui, pour leur compte et par elles-mêmes, sont en non-rapport, mais qui entrent nécessairement dans un rapport indirect l'un avec l'autre, l'une avec l'autre, en vertu de ce qu'elles actualisent. Du coup, dernière question. Mais pourquoi la différenciation fondamentale, voire parler, convient-elle à l'actualisation des rapports de force ? La réponse serait celle-ci. C'est que la force est toujours en rapport avec d'autres forces. En d'autres termes, la force est multiple. Mais chaque force, comme élément d'une multiplicité, a déjà deux aspects. Elle a un pouvoir d'être affectée par d'autres forces, et elle a un pouvoir d'affecter d'autres forces. Le pouvoir d'une force d'affecter d'autres forces, on l'appellera spontanéité de la force. Ce n'est pas des mots de Foucault, mais peu importe, puisque c'est pour rendre les choses plus claires. Le pouvoir de la force d'être... la variation du rapport d'une force avec d'autres forces. Tantôt elle est affectée par les autres, tantôt elle affecte les autres. Mais si vous vous rappelez nos acquis du premier trimestre quand on analysait le savoir, le visible nous avait paru la forme de réceptivité. Cette fois-ci la forme, non plus le pouvoir. Le visible était forme de réceptivité sous la condition de la lumière. L'énoncé était la forme de spontanéité sous la condition du langage. Dès lors, on comprend que les deux pouvoirs de la force, pouvoir de spontanéité et pouvoir de réceptivité, s'actualisent dans deux formes différenciées dont il faut bien que l'une soit une forme de réceptivité, l'autre une forme de spontanéité. Donc ce n'est pas par hasard que les rapports de pouvoir s'actualisent dans le voir et dans le parler. Non pas que le pouvoir, qui consiste en rapport informel, voit lui-même et parle lui-même. Mais comme dit si bien Foucault, le pouvoir fait voir et fait parler. Lui-même, qu'est-ce qu'il est, le pouvoir? Lui-même, la conception que Foucault fait du pouvoir, c'est très analogue à une espèce de conception kafkaïenne du terrier. Le pouvoir, c'est un terrier. C'est une galerie. C'est une galerie qui va du point à un autre. Le pouvoir, c'est la taupe. La galerie, le terrier, la taupe, allant d'un point à un autre. À la limite, le pouvoir est aveugle et muet. Mais il fait voir et il fait parler. Comme dit Foucault dans des textes très émouvants, dans La vie des hommes infâmes. Il nous tire à la lumière de brefs instants. Il nous force à parler par moments. Une plainte est déposée contre moi. Ah. Oui, c'est très kafkaïen, penser au procès. Voilà que, dans mon existence obscure, à la lettre, dans mon existence infâme, c'est-à-dire sans réputation, je suis tiré à la lumière. Comme on dit, je suis pris sous un projecteur. Il fait mon petit tour et puis je m'en vais, quoi. Hein? C'est ça le pouvoir, il nous tire, il nous flanque sous un projecteur et puis bon, allez, t'as fait ton temps. Hein. Ça, les rapports de force. Hein. Puis il me force à parler. Puis il me force à parler. Tu parleras le mardi de 9h à de 10h. Et puis après, je suis rendu à mon existence muette. Quelqu'un qui a assoiffé de pouvoir, c'est quelqu'un qui voudrait être tout le temps sous le projecteur et tout le temps amené à parler. Alors, on a prévu ça, les colloques. ou bien la vie nocturne, le néon. Hein. Oh, vous êtes tiré là. Bon. Alors, bien, le pouvoir, il fait parler, il fait voir, il montre, il voit pas lui-même, il montre, il parle pas lui-même, il force à parler. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que, parce que c'est la question que je vous pose, à savoir, est-ce que nous avons bien répondu à notre question, si je regroupe tout ce qu'on a fait depuis le début, est-ce que nous donnons une réponse au problème que nous avions, à savoir quels sont les rapports entre voir et parler, si par eux-mêmes, ils sont dans un non-rapport. Il fallait dépasser l'axe du savoir, s'installer dans l'axe du pouvoir, découvrir le contenu de l'axe du pouvoir pour comprendre comment les rapports de pouvoir, en s'actualisant dans les formations stratifiées, créent nécessairement deux formes divergentes, le voir et le parler, et comment ces formes, dès lors, étaient dans un rapport indirect, bien que directement, il n'y ait pas de rapport. Si bien que je dirais, lorsque je parlais d'une espèce de kantisme de Foucault, oui, si je vous rappelle que chez Kant, il n'y avait pas du tout le même problème, mais un problème analogue. Kant avait déterminé une forme de réceptivité. L'espace. Peu importe. Peu importe que chez Foucault, ce soit la lumière et pas l'espace. Et il avait déterminé une forme de spontanéité. Le concept, spontanéité de la pensée. Peu importe que chez Foucault, ce soit l'énoncé et pas le concept. Ce qui m'importe, c'est que chez Kant, la forme de spontanéité, concept, et la forme de réceptivité, espace-temps, différaient en nature. Et Kant se heurtait à la question puisque l'espace-temps, d'une part, et d'autre part le concept, différents natures, comment expliquer que les concepts s'appliquent à l'espace et au temps? Comment expliquer que malgré la différence de nature, il y ait co-adaptation entre la forme de spontanéité, concept, et la forme de réceptivité, l'espace-temps? Et Kant disait, c'est un grand mystère, que les concepts puissent s'appliquer à l'espace-temps, alors qu'il y a différence de nature entre les concepts et l'espace et le temps. C'est vraiment mystérieux. Il disait, ça n'est possible que parce qu'il y a une troisième instance. Mais vous comprenez tout de suite, cette troisième instance ne peut pas être une forme. Et il disait, cette troisième instance, il l'appelait le chêne de l'imagination. Le chêne de l'imagination dont il disait, c'est dans notre âme la faculté la plus mystérieuse. Car le chêne de l'imagination, il est, d'une part, homogène à l'espace et au temps, d'autre part, homogène au concept, ce qui donnait l'espace-temps et le concept sont hétérogènes, mais il y a une instance, sont deux formes hétérogènes, mais il y a une instance non formelle qui est homogène à chacune des deux. Vous voyez, c'était très curieux. En effet, le schème, c'est très curieux. Qu'est-ce qu'on appelle un schème? C'est pas la même chose qu'une image. C'est une détermination spatio-temporelle. C'est un dynamisme spatio-temporel. Conforme à un concept. Vous faites correspondre un dynamisme spatio-temporel à un concept. Vous pouvez faire l'expérience pour avoir des chaînes de l'imagination, c'est très amusant. Il y avait une école de psychologie, il n'y a pas très très longtemps, qui se réclamait de Husserl et qui faisait tout le temps ce qu'ils appelaient des expériences de pensée, comme ça, ça consistait en gros. Et ils employaient le même terme souvent de chaîne. On se donnait un concept, et puis vous essayez d'avoir non pas une image correspondant au concept, mais un schéma du concept. Très rigolo ça. Vous ferez ça chez vous, hein? Par exemple, concept de lion. Concept de lion, c'est la définition, par exemple, du lion dans une classification d'histoire naturelle. Mammifère à crinière, à longues dents. Etc. Vous voyez, ça c'est un concept. Une image de lion, vous voyez aussi ce que c'est, hein? Mais un schème de lion, c'est quoi? C'est quel dynamisme spatio-temporel mettez-vous sous le mot lion? Ça peut varier d'après, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que, dans quelle mesure ça peut varier? C'est très très amusant, enfin si on peut dire. Et pour que vous compreniez mieux, il faudrait faire du schématisme différentiel, car le schématisme, il y a une que j'ai découragée, car le schématisme, il est différentiel. Comparer le schème du pou et le schème du lion. Le pou lui-même a un concept, car il n'y a pas d'objet si petit soit-il dans la nature et si nocif soit-il qui n'est son concept. Mais le chêne, quel est le dynamisme spatio-temporel du pou? Quelle est sa manière d'être à l'espace et au temps? Ça ne fait pas partie de son concept, ça. Vous aurez beau retourner dans tous les sens le concept de Lyon, vous y verrez pas sa manière d'être à l'espace et au temps. À savoir, et encore j'en dis trop, c'est trop de l'image ce que je vais dire. Vous commencez par vous dire, le lion dort toute la journée. Bon. Puis il se réveille quand le soir vient, 5 heures du soir. Le lion ouvre l'œil. Il hume l'air. Il voit s'il y a de l'antilope. Hein. Et c'est la lionne qui chasse. Bon, tout ça. Bien. Essayez de supprimer ce qui reste d'image là-dedans. Vous ne gardez que de pur dynamisme. Des dynamismes spatio-temporels. Bon, le schème, bon. Vous vous approchez du schème. Des pures directions dans l'espace et le temps. C'est ça. Vous vous demandez pas, vous n'évoquez pas un lion particulier, mais vous n'évoquez pas non plus des caractères conceptuels. Vous évoquez de pures orientations, des directions, des dynamismes. Il y a un dynamisme du lion qui est le plus beau portrait du lion. Ou bien, vous évoquez le poulpe et l'aigle, hein, le poulpe et l'aigle. Voyez, vous pouvez les penser comme concept. Vous pouvez vous donner une image. Un poulpe qui vous est pas familier, par exemple. Un poulpe que vous aimez particulièrement. Et puis, un aigle. C'est ni image ni concept, le schème. Le schème, le dynamisme spatio-temporel, ça va être à la fois la manière dont l'aigle vole, qui n'est pas la même chose que la manière dont une buse vole, ou dont un épervier vole. La manière dont l'aigle tombe, car ce qui compte c'est toujours la descente, hein, c'est jamais la montée chez les oiseaux de proie, c'est évident. C'est ou bien la manière dont il plane, ou bien la manière dont il fonde. Hein. Bon, voilà un schème. Vous n'imaginez pas un aigle, vous retenez le pur dynamisme spatio-temporel. C'est ça un schème. Tandis que le poulpe, c'est pas ça du tout. Hein, c'est pas, vous ne pouvez pas confondre un dynamisme d'aigle et un dynamisme de poulpe. Le poulpe, c'est. Non, c'est pas le geste rapace. Si vous pensez à un geste rapace à l'état pur, sans savoir ce qu'il fait, là vous aurez un schème d'oiseau de proie. Un geste rapace qui vient d'en haut. Je dirais ça, c'est le chêne de l'oiseau de proie. Un truc là, si vous pensez à un mouvement, à lanière multiple, mais lanière c'est déjà trop une image, à chemin multiple, avec des trucs qui collent, avec un quelque chose qui colle, vous supprimez au maximum les images. Pour extraire le chêne pur, c'est-à-dire une manière d'être à l'espace-temps. On est, et ça, vous tenez un chêne. Comprenez? Et qui a fait ça pour le poulpe et l'aigle? Qui a toujours défini les animaux par des chêmes dynamiques? L'autre et Amon. L'autre et Amon ne décrit jamais un animal. Il énonce le geste dynamique. C'est jamais agréable, puisque il en sort toujours des catastrophes. C'est ça, un schème. Or, je ne dis pas que... Lorsque Kant, tout ceci, c'est pas du Kant que je vous raconte. C'est pour vous faire comprendre ce que Kant entend par schème. Lorsqu'il nous dit, un schème de l'imagination n'est ni une image, ni un concept. Ce n'est ni une image, ni un concept. C'est autre chose. C'est un ensemble de déterminations spatio-temporelles qui correspondent au concept. Je dirais que le schème est homogène à l'espace et au temps, puisqu'il consiste lui-même en dynamisme spatio-temporel, mais il est d'autre part homogène au concept, puisqu'il correspond au concept lui-même. Si bien que je peux dire les concepts, le concept d'une part et l'espace-temps d'autre part, différents natures, sont hétérogènes, l'un avec l'autre, et pourtant le chêne de l'imagination est homogène, d'une part à l'espace-temps, d'autre part au concept. C'est ça l'admirable théorie du schématisme chez Kant. Or, je dis juste que chez Foucault, vous avez quelque chose de semblable. Le visible et l'énonçable sont hétérogènes. Ils sont dans un non-rapport. Ce sont deux formes en non-rapport. Mais il y a un élément informel qui va agir comme cause de leur mise en rapport. Simplement, chez Foucault, ce ne sera pas le chef de l'imagination, ce sera le rapport de force ou de pouvoir. Et le rapport de force sera à la fois homogène à la forme du voir, et homogène à la forme de l'énoncé, bien que les deux formes soient difformes, c'est-à-dire ne soient pas homogènes, soient hétérogènes. C'est en ce sens que le problème auquel nous nous heurtions à la fin de notre étude sur le savoir chez Foucault trouve ici sa solution, à savoir ce sont les rapports de pouvoir qui expliquent la co-adaptation des deux formes de savoir. Voilà la récapitulation que je voulais faire. Et là, je vous lance un appel solennel, bien solennel. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a lieu de revenir? Parce que pratiquement, on a fini, pratiquement, je dis, parce qu'en fait, on va en avoir encore pour un certain temps, mais vous allez comprendre pourquoi, on a pratiquement fini notre analyse du pouvoir chez Foucault. Donc, est-ce qu'il y a encore des points obscurs? Est-ce qu'il y a des choses qui... Il faudrait que notre récapitulation, là, maintenant, ait été lumineuse, ce dont je ne suis pas sûr. C'est à vous de dire, hein, s'il y a lieu de revenir ou si je peux avancer. C'est essentiel parce qu'on ne reviendra pas sur tout ça maintenant. C'est le moment où jamais. D'immanence. Au sens général du mot, c'est-à-dire, je veux dire, en un sens où tout, où toute personne employant le terme cause immanente doit être d'accord sur ce point-là, qui ne fait pas de discussion. C'est une cause est immanente lorsque elle n'a pas besoin de sortir de soi pour produire son effet, et que l'effet reste en elle. Voyez, on distingue, oui, alors ça m'amène à dire, on distingue en gros, il y a une liste des causes infinies, ça fait partie des belles choses de la philosophie, mais on retient en général trois grands types de causes. En fait, on retient beaucoup plus, mais pour s'en tenir à trois. Cause efficiente, cause émanative, cause immanente. Car la philosophie, c'est comme les mathématiques, vous n'en ferez pas si vous n'apprenez pas et si vous n'avez pas appris. Je veux dire, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, c'est aussi précis que des définitions mathématiques. Et il faut distinguer en philosophie ce qui est susceptible de discussion, en quel sens discussion, et ce qui est indiscutable. Là, c'est du domaine, ça ne se discute pas, c'est comme ça. La cause efficiente se définit ainsi. C'est une cause qui a besoin de sortir de soi pour produire son effet. Elle sort de soi pour produire son effet, et son effet lui est extérieur, c'est-à-dire en est réellement distinct. Exemple, Dieu est cause du monde. Dieu sort de soi pour produire le monde et le monde est extérieur à Dieu. Je dirais, Dieu est cause efficiente du monde. Voyez ? Cause émanative. C'est une cause dont l'effet est extérieur, mais qui n'a pas besoin de sortir de soi pour le produire. C'est une cause qui reste en soi pour produire son effet, mais l'effet est extérieur à la cause. On dira que l'effet émane de la cause. Transitif, c'est efficient. Oui, cause efficiente ou transitive. Cause immanente, vous voyez, ça fait une échelle, c'est une échelle de progression. Cause immanente, la cause reste en soi pour produire, et l'effet qu'elle produit lui est intérieur, reste dans la cause. Entre ces trois types de causes, vous avez toutes les transitions possibles. C'est ça qui fait que ça peut se multiplier à l'infini, les types de causes. Par exemple, Dieu et le monde. Dieu et le monde. Eh bien, à votre goût, est-ce que Dieu est cause efficiente ? Est-ce qu'il est... Tiens, par exemple, cas d'une cause émanative. Je dirais, c'est pas sûr d'ailleurs, mais à première vue... Je dirais non plus Dieu et le monde, qui du point de vue du christianisme, c'est une cause efficiente ou transitive. Dieu crée le monde. Cas d'une cause émanative, l'araignée et la soie. Mais comme disait le grand philosophe Hume, qu'est-ce qui me prouve que Dieu n'est pas une araignée ? C'est une question importante si Dieu était une araignée. Parce que si Dieu était une araignée à ce moment-là, le monde ne serait pas l'objet d'une cause efficiente, mais l'objet d'une cause émanative. La soie émane de l'araignée. En effet, l'araignée reste en soi pour produire, reste en soi, S-O-I. Hein. L'araignée reste en elle-même pour produire. Hein. Elle reste en elle-même pour produire la soie, mais la soie, elle reste pas dans l'araignée, elle forme la toile. Je dirais l'araignée est cause émanative de la toile. La cause immanente, vous voyez, c'est que non seulement la cause reste en soi pour produire, mais l'effet reste dans la cause. Spinoza est le plus grand philosophe qui a développé l'idée qu'entre Dieu et le monde, il y avait un rapport d'immanence. C'est-à-dire, Dieu reste en soi pour produire le monde et le monde reste en Dieu. Plotin, philosophe dit de l'émanation, dirait, en simplifiant beaucoup, que Dieu est cause émanative, c'est-à-dire que le monde émane de Dieu, mais ça veut dire que le monde ne reste pas dans la cause. Le christianisme, on dit au contraire que Dieu est cause efficiente, c'est-à-dire que Dieu ne reste pas en soi pour produire le monde, et que le monde ne reste pas en Dieu. C'est ce qu'on appellera un point de vue créationniste. Ceci, c'est pour dire ce qu'on appelle en général cause immanente. Et la cause immanente, chaque fois que vous employez ce mot, vérifiez que il est bien conforme à cette définition, car sinon le mot immanent ne convient pas. Au sens de Foucault, mais en même temps je retire ce que je dis, puisque Foucault n'emploie pas le mot immanence, il nous dit juste que pouvoir et savoir sont l'un dans l'autre. Traduire ça en termes de immanence ne m'apparaît pas exagéré. Pouvoir et savoir sont l'un dans l'autre, je dirais, bon, et j'ai donné les raisons pour lesquelles je pensais qu'on pouvait dire que les rapports de force ou de pouvoir étaient cause immanente des formes de savoir. Et en effet, cela veut dire que les rapports de force, c'est-à-dire la cause, là ça veut dire un peu plus que ma définition générale, ça obéit au caractère de la définition générale. J'ajoute que dans ce cas précis, il faut comprendre que la cause resterait virtuelle sans son effet, c'est-à-dire la cause immanente serait une cause dont l'effet l'actualise, c'est-à-dire l'intègre et la différencie à la fois. Donc, je dirais, il faut tenir compte à ce moment-là de la qualité générale, du caractère général que je viens de déterminer de cause immanente, et en plus y ajouter un caractère plus original, qui est cette idée d'une cause en voie d'actualisation dans son effet. Ça répond à votre question.
De toute façon, je pense que la question que j'ai posée, elle continue. C'est la même question. Je ne suis pas d'accord que tu dises que le pouvoir emplit le savoir. Si tu dis ça, tu dis que A emplit et explique B. On ne peut pas faire ça si dans un type de dialectique et grande chaîne où les savoirs auraient une autonomie, il serait aussi la cause de la structure, parce que où il y a une immanence, un rapport inverse d'explication et implication, où il y a une dialectique avec l'autonomie du savoir, c'est-à-dire le Gramsci.
C'est-à-dire
Gramsci, du style que Gramsci a fait. Gramsci avec l'autonomie relative de la superstructure, qui pour Foucault, il serait, si on fait une analogie, serait le savoir.
Pardon, je ne comprends pas. Tu recommences. Hein? Où tu vois une difficulté? Tu me dis, je ne suis pas d'accord. Avec quoi tu n'es pas d'accord?
Pardon.
Oui.
Qu'il y a un rapport d'implication entre le pouvoir et le savoir. Parce que si tu dis ça...
Si je dis que pouvoir et savoir sont en présupposition, tous les deux, oui. Si je dis ça...
Non, c'est pas ça. Si tu dis qu'il y a un rapport d'implication entre le... Si tu dis que le pouvoir implique le savoir, tu dis que le pouvoir implique et explique le savoir. Si tu fais ça, c'est ça que je ne comprends pas. C'est comme proposer une double causalité, une autonomie relative du savoir.
Tu me prends à un mot. Tu le changes tout seul, tu es assez grand, là c'est uniquement verbal. J'ai dit implique là par commodité, j'ai pas pris implique en un sens rigoureux, en effet. Ça n'a aucune importance.
Je voudrais que tu comprennes, c'est pas pour faire une dispute sur un mot, c'est pas pour me disputer sur le mot.
D'accord, alors.
C'est pour comprendre s'il y a un rapport causal du type le pouvoir explique les savoirs, ou s'il y a une double causalité, une type de pensée à la Gramsci, où il y aurait une autonomie. C'est pour ça, c'est pour aboutir à cette question que je pose la question, c'est pas pour me discuter.
Les deux, je te dirais, d'accord, mais les deux. Pour moi, à la fois, il y a autonomie des deux axes, savoir-pouvoir. Il y a autonomie pour la simple raison que ce sont deux axes. Et que bien plus, ils diffèrent en nature. Et en même temps, j'y peux rien, les choses, elles sont compliquées, ça dépend de quel point de vue on... Si on me dit, est-ce qu'il y a différence de nature, je dis, oui, il y a différence de nature entre pouvoir et savoir. Dès lors, il y a autonomie. Si on me dit, dans quel rapport sont-ils l'un avec l'autre, je dis, ils sont dans un rapport de cause à effet. Simplement, il y a toute une sphère de l'autonomie de l'effet. Et pourtant, c'est de l'immanence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il y a bien hétérogénéité entre les deux axes, il y a différence de nature, donc autonomie de chaque axe. Mais en même temps, l'axe du pouvoir resterait virtuel si il ne s'incarnait pas, s'il ne s'actualisait pas dans les formes du savoir. Ce qui n'empêche pas donc, les formes du savoir sont effets qui actualisent la cause. Ce qui n'empêche pas que ces effets ont une autonomie, puisqu'ils intègrent leur propre cause et ils différencient leur propre cause. Alors, je dirais, c'est tout à la fois. C'est compliqué, tout dépend. Il y a un niveau où il y a autonomie stricte. Il y a un autre niveau où il y a présupposition réciproque. Il y a un autre niveau où il y a causalité. Si bien que, hein, je crois que il n'y a aucune... aucun des points de vue qui supprime l'autre, il me semble. Il y avait une phrase qui me paraît assez typique dans la volonté de savoir. C'est page 130. Voilà, ça me paraît typique. Entre technique de savoir, hein, page 130, entre technique de savoir, et stratégie de pouvoir. Nulle extériorité, là ce serait, je dis, nulle extériorité, ça veut dire il y a immanence. Même si elles ont leur rôle spécifique, même si elles ont leur rôle spécifique, c'est différence de nature. Et qu'elles s'articulent l'une sur l'autre. Qu'elles s'articulent l'une sur l'autre, c'est présupposition réciproque. Virgule, à partir de leur différence. Là, il y a tout dans... Il y a l'immanence, pourtant l'autonomie, la fonction spécifique de chacun. L'extériorité... l'articulation... Mais attention, articulation à partir de leurs différences de nature. Là, je crois, oui, pour répondre à ta question que je comprends maintenant, on partira donc de ce qu'on pourrait appeler les foyers de pouvoir savoir. Ouais, ça répond un peu à ce que...
Je continue à trouver un peu contradictoire l'immanence avec les rapports doubles. Un rapport double, c'est toujours une dialectique, non ? Ça, avec l'immanence, je ne comprends pas.
Pourquoi tu veux ?
C'est contradictoire. Ouais. Oui.
C'est contradictoire pour toi, non ? Oui. Je veux pas. Oui, mais on en est à un point. Si vous avez complètement le droit de penser que ça ne marche pas. Moi, je trouve que ça marche. Alors, si tu penses que ça ne marche pas, il y a deux choses. Ou bien c'est moi qui ne marche pas, dans ce que je dis sur Foucault, ou bien c'est Foucault qui ne marche pas. Alors, je préférerais en effet que tu penses laquelle, qu'est-ce que je préfère. Moi, je crois que tu as le droit, mais qu'à ce point, moi, je crois qu'on pourrait parler longtemps et on ne se convaincrait pas. Hein. Moi, je vois pas bien quoi tu vois une contradiction, même s'il y a une petite contradiction. Il s'agit plus pour moi de savoir si ça rend compte, alors des mixtes concrets, tout ce qu'ils nous disent, si ça se contredit ou pas. Mais ça se contredit jamais, ou c'est jamais très grave les contradictions. Hein. Moi j'en vois pas. J'en vois pas, mais. Moi je crois que si tu vois une contradiction, c'est parce que dans ta tête, même si c'est pas clair encore, tu voudrais que les rapports pouvoir soit savoir soient posés autrement. C'est parce qu'en fait, tu as dans l'idée une autre position du problème, une fois dit que ça va de soi, que Foucault n'épuise pas toutes les manières de poser le problème des rapports pouvoir-savoir. C'est parce que tu as l'idée d'une autre manière de poser le problème, mais alors à ce moment-là, ça sort de notre... Je crois parce que personnellement, je ne vois aucune contradiction. Alors ce que tu dis, contradiction, ça vaudrait également contre Spinoza. Ça vaudrait contre toute pensée de l'immanence, parce que l'immanence a jamais prétendu que l'effet n'ait pas de spécificité. Pour Spinoza, par exemple, le monde reste en Dieu. Dieu produit le monde, mais c'est une production d'immanence. Donc le monde reste en Dieu qui le produit. Et ça n'empêche pas qu'entre le monde et Dieu, il y a une différence de nature. Il y a une différence de nature, seulement, nous dit Spinoza, une différence de nature, ça n'est pas une distinction réelle. Le monde n'est pas distinct, n'est pas le monde. Ouais, ne se confond pas avec Dieu, mais n'est pas réellement distinct de Dieu. Spinoza dira dans ses termes à lui, il y a une distinction modale entre le monde et Dieu, il n'y a pas de distinction réelle. Alors, je ne sais pas, tu as lu Spinoza un peu ? Est-ce que tu vois des contradictions dans Spinoza ?
Non, non, pas du tout. Mais
pas du tout.
Justement, la question de l'immanence de Spinoza, il n'y a pas d'implication. Dieu n'implique pas le monde.
Dieu n'implique pas le monde, mais si, Dieu implique le monde.
Il explique le monde.
Et c'est pareil. Et non, c'est pas du tout le monde, qu'est-ce que tu me fais dire ? Dieu, c'est le monde qui implique Dieu et qui explique Dieu. Encore une fois, je reprends mon terme, parce que c'est pas moi qui l'invente. Dieu complique le monde. Et le monde implique et explique Dieu.
J'étais pour te répondre que ce Spinoza, c'est pas sexy.
Quel argument lâche, tu me lances, tu vas être.
Je ne suis d'accord avec ton livre de Spinoza. Le complication, c'est le rapport entre l'explication et l'explication.
Que c'est étrange ce que tu me dis là. Compliqué par définition, c'est tenir ensemble. Il n'y a que Dieu qui puisse compliquer le monde. Non ?
Oui.
Ah. Donc Dieu, et c'était une formule de certains auteurs du Moyen-Âge, Deus complicans. C'est beau. Dieu, il complique tout. Mais chacun de nous, ou bien le monde, implique Dieu et explique Dieu. Ou bien on dira que Dieu s'explique à travers le monde. Alors Dieu n'explique pas, il s'explique. Hein. Alors là, ça va. Il s'explique, mais il n'explique pas Dieu. Il s'explique à travers le monde, et ce qui explique Dieu, c'est le monde. Je dis ça parce qu'en effet, pour ceux qui ne suivent pas, c'est que vous avez, surtout autour de la Renaissance, mais entre le néoplatonisme et la Renaissance, vous avez là une trinité de notions, ils écrivaient en latin, extrêmement intéressante, qui est implicare, explicare, complicare. Compliqué, expliqué, impliqué. Du Moyen-Âge à la Renaissance, il y a toute une tradition, il développe toute une théorie de la complication, explication, implication, et qui est très importante pour les logiques du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et c'est très beau. Ouais, mais enfin... Oui, bien. Est-ce qu'il y a d'autres points? Ouais. En fait, voilà. En fait, forcément, quand je parle de Foucault, je suis forcément amené à m'avancer un peu. Je ne peux pas vous sortir un texte où Foucault dise la prima. Qu'est-ce qui me fait dire tout se passe comme s'il y avait prima chez Foucault de l'énoncer sur le physique? Plusieurs choses. La principale est celle-ci. C'est que il y a un livre, L'archéologie du savoir. Et dans l'archéologie du savoir, Foucault ne parle pas, comme dans ses livres précédents, il ne parle pas du visible et de l'énonçable. En revanche, il fait la plus pure et la plus complète théorie de l'énoncé dans son livre. Et le visible a disparu. Et au lieu d'une dualité énoncée, voire, ou énonçable visibilité, au lieu d'une telle dualité, il y a une dualité milieu discursif, formation discursive, à quoi répond l'énoncé, et milieu ou